Le vulgarisateur, et il le fait tellement bien, d'actualité sur les réseaux sociaux. Fernel Morissette, ami du show, est avec nous en direct de Londres, mesdames et messieurs. Ça, c'est big en tabarouette. Fernel, comment ça se passe, mon ami?
Ça va très bien. Toujours content d'être avec vous. Comment ça va, vous autres?
Ça va super bien. Question peut-être niaiseuse pour commencer. T'es-tu du genre, parce que tu t'intéresses tellement à la politique américaine, à l'actualité, t'es-tu du genre à regarder ce qui se passe avec le Super Tuesday, le Super Mardi, avec du popcorn puis être tout excité?
Attends, c'était-tu hier, ça? J'étais pas sûr. Non, ouais. Oui, ben, c'est sûr que, bon, je me suis couché très, très tard, ou plutôt très, très tôt ce matin avec le changement d'heure entre ce qui se passe en Amérique du Nord et Londres. Mais ouais, j'ai comme plein de gens, j'ai suivi ça, pas par intérêt personnel, plus que par intérêt, je dirais. Ça affecte le monde au complet, ce qui se passe. On peut pas se le cacher.
Et on va en parler. On va revenir sur ce mardi bien spécial aux États-Unis dans les prochaines minutes. Puis j'aimerais aussi, quand on va commencer, que tu joues pour tout le monde, là, que tu nous résumes à peu près c'est quoi le Super Tuesday aux États. Mais avant, je pense, si on veut y aller dans l'ordre logique des choses, peut-être quand même expliquer la situation Donald Trump et la Cour suprême, et surtout la décision de la Cour suprême aux États-Unis.
Il y a une décision vraiment importante de la Cour suprême qui est sortie lundi, c'est-à-dire à moins de 24 heures avant le début du vote au Colorado, à savoir si Donald Trump pouvait être ou non sur le bulletin de vote dans les primaires au Colorado. La raison pour ça, c'est qu'au Colorado, il y avait eu quelques électeurs qui avaient invoqué le 14e amendement des États-Unis qui ne permet pas aux insurrectionnistes, c'est-à-dire les gens qui ont participé à une tentative d'insurrection contre le gouvernement fédéral, d'être des officiers des États-Unis. Alors, l'interprétation qu'avait fait la Cour suprême du Colorado, donc pas la Cour suprême des États-Unis, mais la Cour suprême de l'État, était que ça voulait dire que Donald Trump ne pouvait pas être sur le bulletin de vote au Colorado. Et évidemment, il fallait que la Cour suprême réponde un peu à ça parce que un des États qui avait à décider, ça allait être qui le candidat républicain hier pendant Super Tuesday, c'était le Colorado. Alors, il fallait qu'il y ait une certitude là-dessus. C'est là que, décision vraiment très, très rare de la Cour suprême des États-Unis, décision unanime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas de différence d'opinion partisane là-dessus. Et une décision vraiment très courte. La décision principale fait 13 pages. Okay. C'est extrêmement court pour une décision de la Cour suprême. Là-dessus, il y a quelques pages d'opinions additionnelles, mais qui ne sont pas des opinions dissidentes, où la Cour dit, encore une fois, de façon unanime, que c'est seulement le gouvernement fédéral, donc seulement le Congrès des États-Unis, qui est capable d'appliquer la clause anti-insurrectionniste contre des officiers fédéraux. Les États, ils disent, peuvent appliquer la clause contre leurs officiers des États, okay. Mais pour les officiers fédéraux, c'est seulement le Congrès qui peut le faire. C'était la décision la plus minime, je pense, que la Cour aurait pu faire. Ils n'ont pas statué à savoir est-ce que Donald Trump a participé à une insurrection. Ils n'ont pas statué à savoir est-ce que Donald Trump est éligible à être président des États-Unis. Ils n'ont pas statué sur aucune des autres questions devant les instances différentes de la Cour. Mais ils ont statué, ils ont dit essentiellement même si Donald Trump a participé à une insurrection, c'est pas le Colorado qui a le droit de faire cette détermination-là au sens de savoir s'il est éligible à être président. Et puis même là, dans les opinions complémentaires, les quatre juges, c'est intéressant, c'est quand même les quatre juges féminines de la Cour suprême, elles ont dit que même ça, ça allait trop loin. La seule chose qui était nécessaire à décider, c'était qu'un État ne pouvait pas appliquer la clause contre un candidat à la présidence, point final. Alors, on sent vraiment la Cour suprême essaye de ficeler une décision extrêmement controversée, qui savait qu'elle est controversée, mais de façon à présenter un front unanime pour okay. dire que ce n'est pas une décision partisane. Clairement, la Cour suprême essaye de calmer le jeu, essaye d'apporter un compromis qui va, après ça, permettre au reste de l'élection de se dérouler avec un minimum de chaos.
Donc, Farnell, au vu de cette décision-là, est-ce que ça revient au fameux procès de Donald Trump qui décidera de la suite des choses pour le Congrès américain? Ou même là, on est trop tard, puis il y aura élection entre Trump et Biden?
Ça revient, je pense, surtout au procès qui a lieu présentement contre Trump ou qui est dans le processus ouais. de s'avancer pour justement d'avoir participé à une insurrection. Mais c'est pas clair si ce procès-là va arriver à un verdict avant l'élection. Ça devient de moins en moins probable. Et puis, si le verdict tombe après l'élection et que Donald Trump est élu, ça pourrait encore être une situation très chaotique. Ça aussi, on s'imagine, la Cour suprême va avoir à se pencher là-dessus.
Hey, Fernel, avant de parler des résultats du Super Mardi aux États-Unis, juste pour le bien de tout le monde, là, résume-nous donc, c'est quoi un Super Tuesday?
Le Super Tuesday, c'est une journée où il y a 15 États aux États-Unis qui font leur décision, à savoir, ça va être qui le candidat républicain et le candidat démocrate aux élections. La raison que ça se fait, on n'a pas d'équivalent comme ça au Canada. Puis ça, c'est parce qu'aux États-Unis, c'est chaque État individuellement qui est un peu comme le gestionnaire de ces élections fédérales et qui est aussi le gestionnaire du processus de savoir qui va être le candidat dans... qui va recevoir les délégués de leur État. Alors, il y a des États qui décident de faire ça très tôt. L'Iowa, par exemple, a typiquement été les premiers. Il y a des États qui décident de faire ça tous ensemble. Et le Super Tuesday, c'est comme, généralement, c'est la plus grosse journée avec ces 15 États-là. C'est la journée où il y a le plus de délégués en jeu. Il faut à Donald Trump à peu près 1200 délégués. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, là. Mais il y en a quand même à peu près 800 qui étaient en jeu hier. Et puis, c'est pour ça que le Super Tuesday, c'est souvent vu comme le moment charnière des campagnes électorales pour les primaires à la présidence.
Et maintenant, on sait, Farnell, que ce sera encore une fois Donald Trump contre Joe Biden pour la course à la présidence des États-Unis?
Ben, à la grande surprise de personne.
Ouais,
Mais oui, tu sais, c'est encore une fois, à moins d'une situation exceptionnelle, ça va être Donald Trump le candidat républicain. Puis la raison pour ça, c'est que dans les dernières heures, Nikki Haley a annoncé qu'elle suspendait sa campagne. On dit bien suspendre, ça ne veut pas dire qu'elle se désiste, elle fait juste dire « OK, c'est fini, je ne fais plus campagne ». Mais advenant qu'une situation incroyable se produise, Donald Trump ne peut plus être le candidat. Le fait que sa campagne est simplement suspendue, comme c'est le cas par exemple pour aussi tous les autres candidats, techniquement ils ont seulement suspendu leur campagne, ils peuvent raviver leur campagne et réessayer d'aller chercher la présidence. Nikki Haley a fait ça dans les dernières heures. Là, ce qui va être très important à savoir, c'est est-ce qu'elle va endosser Trump ou est-ce qu'elle va essayer d'utiliser ce qui lui reste d'influence, il lui reste énormément d'argent aussi, pour essayer de se monnayer d'une entente, de faire un échange, de faire des discussions avec Trump. On sait que Trump, hier, n'a pas mentionné du tout Nikki Haley dans son discours. Alors, peut-être qu'ils sont en train de s'ouvrir à des négociations. On sait que le clan Trump est très bon à faire la paix avec ses anciens adversaires. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est en jeu maintenant, puis on le sait juste pas.
Oui, parce que Nikki Haley avait quand même défié l'imaginaire la semaine dernière en disant « Écoutez, moi, il y a 40 % des gens républicains qui votent pour moi, puis ces 40 %-là voteront jamais pour Donald Trump. » Donc, Trump, c'est une défaite assurée pour le Parti républicain.
C'est sa position. Ça pourrait continuer à être sa position. Puis c'est ça qui est quand même très intéressant. Nikki Haley, dans une situation un peu inusitée où toutes les options lui sont encore ouvert. Elle pourrait rendre tout l'argent qu'elle a levé, puis cet argent-là, elle la garde. Là. Ça reste l'argent qu'elle peut utiliser politiquement à peu près comme elle veut. Elle pourrait utiliser cet argent-là pour créer sa propre faction à l'intérieur du Parti républicain, puis aller chercher beaucoup d'influence en pouvant, par exemple, offrir de financer des campagnes électorales de ses alliés qui lui créeraient à elle une influence à l'intérieur du parti. Elle pourrait aussi utiliser cet argent-là pour financer sa propre campagne techniquement indépendante à la présidence en se disant, ben justement, je vais chercher 40 % des électeurs républicains. Si je suis capable aussi d'aller chercher beaucoup des démocrates qui ne sont pas satisfaits de Biden, les mathématiques ne sont pas impossibles pour elle. Ou peut-être qu'elle va justement garder toutes ces possibilités-là et un peu jouer ses cartes le mieux qu'elle peut avec les autres acteurs politiques qui sont encore dans la course présentement.
Farnell, j'ai peut-être une drôle de question pour toi. Je vais essayer de bien la formuler. Moi, je trouve ça triste de voir les deux options qu'il y a sur la table pour la présidence aux États-Unis, soit Joe Biden et Donald Trump. Mais moi, ça ne vient pas me chercher avec les émotions. Je ne suis pas américain. Pantoute. Tout habité là-bas, tu suis ce qui se passe. Est-ce que les Américains, en général, s'intéressent vraiment à qui sera le président? Ou c'est plus démocrate, républicain? Ou c'est plus comment l'État est géré où ils habitent?
C'est quand même intéressant parce que nous, de l'extérieur, justement, on entend beaucoup parler des élections fédérales, puis la politique fédérale. Mais moi, j'ai vécu 6 ans à New York, puis pendant ce temps-là, j'ai beaucoup plus entendu parler des élections pour le gouverneur, des élections à la mairie. C'est beaucoup plus ça qui touche les gens. Et puis ça surprend souvent le monde à l'extérieur parce que, tu sais, souvent on entend parler qu'il y a X pourcentage de gens qui ne se présentent même pas pour voter aux élections fédérales, puis on se dit, ça se peut pas, c'est tellement important. Mais c'est important pour nous de l'extérieur. Pour les gens à l'intérieur, et peut-être avec ou sans raison, ils ont souvent il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est qui le président, ça dérange pas bien gros parce que c'est le gouverneur de mon État, c'est le maire de ma ville, c'est le shérif, c'est les juges locaux qui affectent beaucoup plus ma vie. Ils voient souvent, il y en a beaucoup, beaucoup qui voient Joe Biden ou Donald Trump comme du pareil au même.
OK. Ben, ça répond parfaitement à ma question.
Ah ouais,
c'est un peu l'impression que j'avais. Mais vu de l'extérieur, on dirait que la présidence est tellement importante.
Dans le fond, c'est sûr, vu de l'extérieur, mais c'est que nous, notre vision de l'extérieur, c'est ça va être qui va faire la politique internationale des États-Unis. Et puis ça, ben, c'est le gouvernement fédéral. Alors, on a un intérêt énorme à savoir comment ça se passe, mais c'est pas nécessairement la même chose à l'intérieur des États-Unis.
Dans le fond, nous, ici au Québec, on est plus touchés par le fédéral parce qu'on a eu souvent la bataille séparatiste-fédéraliste. Mais sinon, j'imagine qu'on serait positionné dans le même camp que les Américains, c'est-à-dire qu'on se concentrerait beaucoup plus sur les politiques qui nous touchent directement. Est-ce que je suis dans l'erreur?
Je pense que c'est très vrai. Puis même, à quelque part, je dirais probablement que la politique québécoise, en fait, ressemble beaucoup plus à la politique des États des États-Unis, dans le sens que notre intérêt principal au Québec, c'est généralement beaucoup plus ce qui se passe à l'Assemblée nationale que c'est ce qui se passe au Parlement à Ottawa.
En effet.
Pour la plupart des Américains, dans la plupart des États, ce qui se passe dans leur capitale de leur État avec leur législature étatique est pas mal plus important pour eux aussi.
Hey, Farnell, en terminant, le Super Tuesday est passé. On est mercredi maintenant. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on suit là, dans cette course-là à aller à éventuellement là, les élections aux États-Unis?
Les formalités continuent. Tous les autres États vont aussi avoir leur propre primaire. Mais maintenant qu'à toute fin pratique, c'est une campagne inopposée de Donald Trump. Ça va être beaucoup plus des rallyes politiques, ça va être des chances d'aller chercher de l'attention médiatique. Ça va ressembler beaucoup plus à une tentative de présenter un front unifié du Parti républicain. Il faut dire aussi, pendant ce temps-là, les démocrates aussi, en théorie, ont leur propre processus de primaire. Même, il y a eu une petite surprise hier quand la Samoa américaine les démocrates en Samoa américaine n'ont pas voté pour Joe Biden, ils ont voté pour un homme d'affaires qui venait de Baltimore.
Ouais.
alors, le processus continue. À ce point-ci, c'est des formalités. Je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont s'attarder au calcul, au pourcentage près de tel État versus tel État. Mais ça continue, sauf que ça va ressembler, c'est ça, beaucoup plus à des rallyes politiques, à des gros partis, à des tentatives de faire passer son message au lieu de se faire de la compétition interne.
Vous devez absolument suivre Farnell Morissette sur les réseaux sociaux. Il vulgarise tellement bien ce qui se passe chez nous et ailleurs. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine. Farnell, c'est toujours un immense plaisir que tu prennes le temps pour nous jaser des différents sujets ici à Rage Against le matin. Merci pour ça, mon chum.
Ben, merci à vous, puis c'est moi qui vous remercie de me partager votre plateforme aussi. J'apprécie beaucoup.
On cool. se parle et on se voit bientôt. Farnell Morissette, mesdames et messieurs. Donc, hey, après la pause, OK, ça roule ce show-là. Il y a entre autres le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, qui sera avec nous.
Oui.
Et qui sait? J'ai un feeling! On va peut-être être millionnaire! Oui.